Bonsoir, même si chaque histoire, bien sûr, est unique et chaque cas très personnel, a fortiori dans l'intimité face au drame et au désespoir, le suicide, en particulier dans l'entreprise, continue de susciter beaucoup de questions. Hier, un technicien de France Télécom à Troyes, dont le poste doit être supprimé, a tenté de se suicider devant ses collègues en se poignardant au cours d'une réunion de service. Selon les syndicats qui, aujourd'hui, organisaient une série d'arrêts de travail, au total, ce sont 22 salariés de France Télécom qui se sont suicidés depuis février 2008, tandis que la DRH du groupe, interrogée ce matin même par Le Parisien, promet, je cite, de renforcer la prévention contre les suicides en formant notamment les cadres à mieux détecter, je cite encore, les signaux de faiblesse psychologique. Il y a quelques mois, on s'en souvient, c'est Renault qui avait ainsi connu une véritable série noire de suicides, alors que, à l'époque, syndicats comme direction évoquaient déjà ce qu'ils appelaient des tensions très fortes auxquelles étaient soumis notamment les ingénieurs ou les chercheurs du groupe automobile. Encore une fois, les cas sont individuels, complexes, ce sont souvent plusieurs éléments affectifs, personnels et en l'occurrence professionnels qui entrent en ligne de compte. Pourquoi cependant le travail amène-t-il ainsi certains d'entre nous à vouloir en finir? Comment comprendre de tels gestes? Peut-on, le cas échéant, les prévenir? Quel rôle, par exemple, vous êtes très nombreux à nous appeler là-dessus, peuvent jouer les collègues, l'entourage? Comment mesurer aussi, parce que ça fait partie du sujet, le poids de ce qu'on appelle la crise économique, en clair, concrètement, la peur du chômage, ou encore, plus directement, les pressions psychologiques, le stress, les conflits avec l'encadrement qui se font jour dans l'entreprise? En direct avec nous, je les remercie pour leur présence, le docteur Christophe Dejour, psychiatre et psychanalyste, qui vient de publier « Suicide et travail, que faire ?» au PUF dans une toute nouvelle collection « Souffrance et théorie ». Marie Peset, psychanalyste, responsable de la consultation « Souffrance et travail » à l'hôpital de Nanterre, auteur de « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » aux éditions Pearson, et bien sûr Hélène Cardin de France Inter.
Le téléphone sonne.
Bernard, bonsoir, vous êtes dans la Marne, vous êtes, si j'ai bien compris votre courriel, syndicaliste et notamment syndicaliste à France Télécom, c'est cela?
Alors, syndicaliste, le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté, puisque je suis secrétaire de la CHSCT.
Oui,
et dans la CHSCT,
le CHSCT, en fait, c'est le comité d'hygiène et de sécurité.
Tout à fait.
Voilà.
Et dans la CHSCT, en fait, on n'affiche pas d'étiquette syndicale.
D'accord.
On est là pour s'occuper de la santé et des conditions de travail des salariés du périmètre du CHSCT en question.
Et alors, je vous en prie, poursuivez, Bernard.
Alors moi, je vis la situation qu'on peut lire ces derniers temps, aussi bien dans les journaux ou entendre sur les radios ou même les télévisions nationales. D'ailleurs, je vais remercier tous les journalistes qui ont fait un travail important sur ce sujet, parce qu'enfin on parle de ce qui se passe à France Télécom depuis de nombreuses années, et enfin on parle un peu de la détresse des salariés de cette entreprise. Moi je rencontre tous les jours des gens qui sont complètement déprimés, pour vous donner une image, des gens de plus de 50 ans qui pleurent devant moi, c'est extrêmement déstabilisant, perturbant. L'entreprise refuse complètement d'aborder le sujet, c'est le déni complet. Il est impossible d'arriver à mettre en place dans le cadre des CHSCT des outils qui permettraient de faire de la prévention par rapport à cette situation, d'arrêter pendant un certain temps l'avance sans effréner à laquelle on est soumis. Il est impossible d'avoir des chiffres sur les nombres d'arrêts de jours de travail perdus, le nombre de personnes arrêtées plus d'une semaine, etc. Et tout. Donc, en tant que représentant du personnel, c'est une situation extrêmement difficile à vivre tous les jours.
Si vous le permettez, Bernard, on va poser bien évidemment la question à nos invités. Ce que nous avons un peu de mal à comprendre ici, et également si j'en juge par les messages que je reçois, les auditeurs et les internautes, c'est que certes, dans l'entreprise, publique ou privée d'ailleurs, le stress, ça existe, les brimades, la peur surtout en ce moment d'être viré, mais comment expliquer qu'on puisse en arriver, ce qui est quand même très grave pour des gens qui ont une famille, des enfants, etc., qu'on puisse véritablement en arriver au suicide ou à la tentative de suicide. Est-ce que, par exemple, là où vous exercez au comité d'hygiène et de sécurité, on a évoqué ce type de questions?
Oui, bon, on l'évoque à chaque séance, on l'évoque.
Oui. Et que répond-on, que vous entendez-vous répondre de la part de la hiérarchie?
Ben, c'est un petit peu les propos que vous avez tenus, à savoir que ben, c'est des causes multiples, etc. Et tout.
Oui.
Alors moi, par expérience, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans les CHSCT, par expérience, je peux vous assurer que les personnes que j'ai rencontrées, pour lesquelles j'ai fait des droits d'alerte pour danger grave et imminent, c'est des personnes qui ont pas plus de problèmes que d'autres. Mais, par contre, c'est des personnes qui sont très investies dans leur travail et très attachées à l'entreprise. Parce que c'est des gens qui sont dans l'entreprise souvent depuis une trentaine d'années, oui, qui ont eu un travail méritoire, à tel point que je peux vous prendre un exemple pour argumenter mes propos. Là, tout à fait récemment, il y a un collègue qui est viré, qui est envoyé sur un plateau téléphonique, et c'est quelqu'un qui a été récompensé par les Orange Stars. Orange Stars, c'est des récompenses nationales, et pour un travail tout à fait exceptionnel,
oui,
qui sort du lot, puisqu'il y a que 5 personnes qui sont 5 personnes de 5 équipes qui sont récompensées dans l'entreprise par an. Et cette personne-là, l'année dernière, elle a été première, elle a été dans ce challenge, elle a été deuxième cette année, et là, d'un coup, on lui dit, ben non, maintenant c'est fini, je fais plus ce boulot-là, tu vas aller répondre au téléphone sur un plateau.
Donc des gens très investis, des gens qui prennent vraiment ce travail à cœur, et puis tout d'un coup qui ont le sentiment, je dis ça parce que j'en citerai tout à l'heure, j'ai plusieurs messages en ce sens, ils ont vraiment l'impression que tout dégringole, que le monde s'arrête, le regard des autres change, etc., etc. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre, un commentaire, Christophe, docteur Christophe Dejour peut-être?
Oui, peut-être sur ce dernier point, oui, hein, c'est vrai que c'est une des découvertes, on pourrait dire cliniques, hein, les plus insolites, c'est que parmi les gens qui se suicident, il y en a qui ne sont pas du tout des bras cassés, pas du tout des déprimés, pas du tout des malades. C'est des gens qui sont plutôt bien portants et même au contraire qui sont plutôt appréciés par l'entreprise, qui font l'objet d'évaluations très favorables, qui ont même un certain prestige dans l'entreprise et qui ont quelquefois une vie familiale tout à fait équilibrée, un entourage, bon, un bon salaire et de bonnes conditions. Et pourtant, il se suicide. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est, il faut bien le comprendre, hein, c'est un vrai problème, même cliniquement, parce que c'est en désaccord, si vous voulez, avec les conceptions traditionnelles de la psychiatrie. Donc ce sont des gens qui vont bien, seulement voilà, ils ont effectivement, comme le dit ce président de CHSCT, enfin ou ce secrétaire général plutôt de ce CHSCT, c'est que ce sont des gens qui sont très investis, et c'est cet investissement qui devient un piège. Parce que finalement, pour réussir à obtenir les performances qui sont données dans les contrats d'objectifs, ça ne se gagne pas comme ça. Donc ce sont des gens qui s'engagent corps et âme, sans compter. Ce sont souvent des gens qui, du coup, empiètent sur leur vie privée, ne dorment plus, y pensent toute la journée, font des rêves sur leur travail. Tout ça, ça contribue, si vous voulez, à leur habileté, à leur savoir-faire, etc. Et puis, un beau jour, c'est la disgrâce. Pour une raison qui n'a rien à... Alors, qui est totalement...
qui est vécue comme arbitraire, souvent,
arbitraire ou pas, en tout cas, elle est certainement une injustice. En tout cas, elle est une infidélité et une déloyauté de l'entreprise. Parce que finalement, on leur a quand même demandé beaucoup, ils ont fourni, et puis on les casse. Et là, il y a des gens qui... Et on voit que beaucoup de gens se brisent, se détruisent. C'est très impressionnant. Et je pense qu'il y a d'une part cette espèce de crise entre l'entreprise au niveau de la reconnaissance, et puisque les gens ont apporté comme contribution, et puis souvent aussi, ce que, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même que quand les gens commencent à aller mal, ils sont tout seuls.
Voilà. Marie Pesé.
Je pense que la solitude est véritablement le point le plus important et que les formes d'organisation du travail mises en place actuellement la favorisent. On l'a bien entendu au travers du cas énoncé par ce secrétaire de CHSCT. Voilà, cet homme s'investit beaucoup et puis à un moment donné, on lui demande de revoir sa trajectoire, de désinvestir. C'est une trahison, hein, par rapport aux investissements physiques et psychiques demandés aux salariés. Il faut revoir sa vie en une heure, tout d'un coup, tout recommencer à zéro, et on est d'ailleurs un zéro à ce moment-là, puisqu'on se retrouve sur un plateau téléphonique à faire un travail tout à fait banal. Donc c'est important de comprendre que ces salariés ne sont pas des salariés fragiles, et que comme le disait Christophe Dejour, l'explication par la fragilité n'est pas la bonne. Et c'est très ennuyeux de voir que finalement les mesures proposées par France Télécom vont un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire apprendre aux managers à repérer les salariés fragiles.
Les signaux de faiblesse psychologique.
Voilà. Et ce ne sont justement pas les signaux de faiblesse psychique qu'il faut repérer, mais bien au contraire peut-être les zones d'investissement. Et puis ce n'est pas aux managers de jouer aux psychiatres et aux cliniciens dans l'entreprise. On leur fait jouer là un rôle d'autant plus dangereux qu'eux-mêmes ne vont pas bien et hantent nos consultations.
Hélène Cardin, peut-être que historiquement vous pourriez nous dire, docteur Dejour, quand ça a basculé ? Parce que c'est plutôt récent qu'il y a des suicides sur le lieu de travail, c'est même très récent.
C'est récent, ça fait déjà quelques années, parce que ça fait une douzaine d'années que les premiers cas me sont arrivés au laboratoire, et auparavant il n'y en avait pas. Il y avait sans doute des suicides qui avaient un rapport avec le travail, mais les gens ne venaient pas se tuer sur leur lieu de travail et offrir leur cadavre aux collègues ou à l'entreprise. Donc là, il y a quelque chose qui est une conduite tout à fait nouvelle et qui, évidemment, marque un tournant quand même. C'est une forme d'expression qui marque un virage radical, si vous voulez, dans le rapport, la déstructuration du rapport entre la personnalité, le psychisme des gens et le travail. C'est à ce titre-là qu'il faut le prendre, parce que c'est un message qui à la fois révèle des choses qui sont en amont, c'est-à-dire la déstructuration fondamentale du tissu social et du tissu humain du travail, parce que comme le disait Marie Peset il y a un instant, l'élément principal c'est cette solitude, on est tous ensemble mais en fait chacun est seul. Quand vous commencez à aller mal, en fait personne ne vous porte assistance, personne, il n'y a pas d'entraide, il n'y a plus de prévenance, les gens tournent la tête quand quelqu'un est victime de harcèlement ou de persécution, ce qui est finalement une chose assez banale dans le travail, mais ce qui n'est pas banal et ce qui est nouveau, c'est que les gens, les autres, ne viennent pas, si vous voulez, à l'appui, ils se détournent en disant tant que c'est pas moi, bon, c'est chacun pour soi. Donc, il y a en amont, si vous voulez, ce que ça révèle, c'est la déstructuration du monde du travail, du monde humain et social du travail. Et en aval, le suicide lui-même déclenche une série de problèmes pour la suite. C'est-à-dire ceux qui restent doivent maintenant vivre avec le cadavre, avec l'image du cadavre, avec le fait que, comme c'est généralement le cas, on ne fait rien après ce suicide, qu'on n'élucide pas les choses et qu'on ne revient pas à l'organisation du travail et aux processus qui sont en cause entre l'organisation du travail et le suicide, évidemment les gens sont complètement plombés. Il faut imaginer ce que ça veut dire pour la suite. Ça veut dire que maintenant il faut travailler en se disant mais le suicide c'est normal, ça fait partie maintenant des risques du travail. Alors vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour la communauté qui reste. Voilà pourquoi le message qui est adressé par le suicide sur le lieu de travail, c'est vraiment un tournant historique à mon avis.
Un mot encore Marie Peset avant le prochain appel.
Ce sont des suicides dédicacés et je pense qu'on peut se référer finalement à ce que dit le docteur Marie-Pierre Guillaume-Bailly. Il y a les suicides rouges qui sont un peu comme celui qui a eu lieu, cette tentative en se poignardant, d'allumer dans l'entreprise une possibilité de parole. Et puis il y a les suicides plus blanc, où les gens s'éteignent dans un burn-out absolument massif, dans une hyperactivité qu'ils ne savent plus comment interrompre, et ils le disent, puisqu'on reçoit 2 ou 3 tentatives de suicide par semaine en ce moment, pour que ça s'arrête, je vais me tuer. Je ne vois pas d'autre solution.
Catherine, bonsoir, vous êtes en région parisienne. Bienvenue au téléphone sonne, Catherine.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'aurais 2 petites questions, mais tout d'une part en préambule, je me permets de rappeler quand même que l'employeur est responsable de la santé et mentale et physique de ses salariés, tel que le définit le Code du travail. Donc ma première question porte sur la pluridisciplinarité, donc la loi sur la pluridisciplinarité du 17 janvier 2002. Et je m'interroge donc sur la faible mobilisation de professionnels pluridisciplinaires comme les ergonomes, donc comme moi, ou des psychologues du travail dans les entreprises, dès l'instant où il y a des modifications péjoratives des indicateurs de santé au travail, comme les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
Alors, est-ce une question, si vous le permettez, d'ergonomie ? Autrement dit, est-ce qu'il suffirait de rendre le travail un peu plus, comment dire, vivable, d'aider les salariés à s'y adapter pour que ça fonctionne, Marie Peset, votre point de vue?
Je ne suis pas d'accord avec la personne qui téléphone. Je pense qu'au contraire, sur le plan clinique, il y a une très forte mobilisation. En plus des 50 services de pathologie professionnelle qui existent en France, il y a désormais 23 consultations sous France et Travail. Nous avons créé avec le professeur Christophe Dejour un certificat de spécialisation en psychopathologie du travail pour former d'autres spécialistes. Il faut d'ailleurs que nos auditeurs, là, soient soient informés, qu'ils peuvent aller consulter. Les médecins généralistes sont extrêmement mobilisés sur ces questions. Les médecins conseils également. Donc je pense que c'est par le soin et le travail du soin qu'il y a un retour sur la prise de conscience des pathologies professionnelles dans ce pays. Mais effectivement, il y a obligation de résultat de la part de l'employeur. Le L231 est absolument indispensable à préserver. L'employeur va devoir se débrouiller avec cette obligation de résultat, pas de moyens, de résultat.
À propos, vous en parliez, docteur, de jour de la solitude, de la façon dont on se sent seul ou dont cette solitude est ressentie, à propos aussi de ceux qui restent, je voudrais vous lire le courriel d'Antoine à Paris. Quel peut être, ou quel devrait être, ou quel pourrait être le rôle de l'entourage face à ces conduites suicidaires ? Un de nos collègues, entre parenthèses, pour des raisons purement d'ailleurs personnelles et familiales, s'est suicidé, mais dans l'entreprise, nous constations autour de lui que ça n'allait pas. Nous n'avons pas su quoi faire, il se recroquevillait dans sa coquille, refusait tout contact, et un matin, nous avons appris que le pire était arrivé. Nous nous sommes sentis à la fois un peu coupables, mais aussi complètement démunis. Et si cela nous arrivait à nouveau, je ne saurais sans doute moi-même à nouveau pas quoi faire. Docteur Dejour.
Oui, là, je pense que c'est mettre le doigt sur le problème de fond. Hein. Je pense que avant, il n'y avait pas ces suicides sur les lieux de travail parce que précisément, il existait des formes d'entraide, des formes de prévenance, d'attention et de solidarité très fortes dans le monde du travail, y compris dans des zones extrêmement dures, là où le travail était très pénible et où on avait des bonnes raisons de se plaindre et où la santé était effectivement mise en danger. On voyait au contraire des gestes de solidarité, des gestes d'entraide et des gestes de camaraderie. La camaraderie. Aujourd'hui, ça, quand je dis camaraderie, je pense que ça vous fait sursauter, c'est un mot d'autrefois. Ben oui, mais écoutez, la camaraderie existait, c'est-à-dire un certain type de rapport entre les gens qui se nouent à l'occasion du travail et pour le travail, et qui était fondamentalement lié à aussi ce souci de coopérer, c'est-à-dire de travailler ensemble. Moi, je pense que c'était ce tissu-là qui faisait la prévention jusque-là. Des tentatives de suicide ou des motions suicidaires, comme on dit de façon plus technique, parce que des gens aient été déprimés, que des gens aient eu envie tout à coup de casser la gueule au chef. Écoutez, c'était parfaitement banal sur une chaîne de montage. Les rapports sociaux étaient extrêmement tendus, extrêmement durs. Ils n'étaient pas du tout, faut pas les reconstituer comme si quelque chose d'idyllique par le passé. C'était redoutable, c'était épouvantable. Mais pourquoi est-ce que les gens ne tapaient pas? Pourquoi est-ce que les gens ne cassaient pas tout? Pourquoi est-ce que les gens ne s'agressaient pas à eux-mêmes? Parce qu'il y avait les autres qui intervenaient. Donc cet interlocuteur, il a parfaitement raison de poser le problème. Maintenant, le fait est que nous sommes dans une situation qui est très dégradée, parce que ça, c'était il y a 30 ans, ce dont je vous parle, quand moi, je faisais mes enquêtes au début. Aujourd'hui, le monde social du travail est globalement dégradé. Et les gens sont chacun pour soi. Les nouvelles formes d'organisation du travail ont appris aux gens à se monter les uns contre les autres. Et c'est vrai que spontanément aller vers quelqu'un qui ne va pas bien, dans un lieu de travail, ça ne va pas de soi du tout. Occupe-toi de tes affaires, on t'a pas demandé de faire du zèle, occupe-toi de tes oignons et fais tes objectifs. Et en plus, c'est quelquefois pas très bien vu. Mais alors qu'autrefois, j'ai vu vraiment des gestes de solidarité avec des gens qui étaient alcooliques ou des gens qui étaient malades. Ils disaient, bon, écoute, mon vieux, là, t'es pas bien. Alors, tu montes pas l'échelle, tu restes là. Et on faisait le boulot à sa place. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'était un autre monde. Le monde a changé.
Marie Pesé.
Les collectifs de travail n'existent plus. Hein. C'est extrêmement difficile désormais de s'appuyer les uns sur les autres. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est encore une fois ça qui crée la crise psychique aiguë qui peut survenir quand on est confronté à des difficultés dans l'exécution du travail.
Je vais juste ajouter un petit mot parce que la question était très difficile. Il dit, mais moi je ne saurais plus quoi faire. Effectivement, je ne crois pas que les initiatives individuelles, toutes seules, soient suffisantes. Et on ne peut pas imputer à quelqu'un en particulier la responsabilité vis-à-vis de quelqu'un qui ne va pas bien. C'est pour ça que c'est aussi une erreur, le plan de France Télécom, qui a été annoncé, parce que je ne crois pas qu'on peut mettre ça sur le dos du manager pour un certain nombre de raisons, d'autant plus qu'en même temps, on lui demande, par ailleurs, d'être brutal et d'exiger les résultats. Donc, si vous voulez, d'un côté, vous lui demandez
de faire le burnus, si je puis dire,
et de l'autre, vous lui dites, attention, faites attention dès qu'il a des symptômes. Non, alors là, je pense que c'est une situation absolument ingérable. Non, ce que je crois, c'est que pour pouvoir répondre à la question, il faut effectivement faire une réponse collective. Donc c'est autour de la question du comment on travaille ensemble, quelles sont les difficultés que les gens rencontrent dans leur travail, et le fait de pouvoir arbitrer ensemble les manières de faire face aux difficultés,
qu'alors les gens se mettent à se parler et que du coup les conditions sont prêtes pour qu'on intervienne quand quelqu'un ne va pas bien. C'est pas comme ça dans un désert organisé que tout à coup quelqu'un doit sortir de sa chaise pour aller ramasser quelqu'un, un autre qui ne va pas bien. Ça, c'est effectivement très difficile et je pense que les gens n'osent pas et ne savent pas très bien. On ne peut pas leur demander d'être des psychologues, des cliniciens, des psychiatres. Non, c'est la vie d'ordinaire qu'il faut reconstituer.
Marie Pesé.
Et puis, il ne faut pas faire l'impasse non plus sur les acteurs dans l'entreprise et hors de l'entreprise qui existent. Le médecin du travail, l'assistante sociale, les membres du CHSCT, les délégués du personnel, à l'extérieur de l'entreprise, l'inspecteur du travail, qu'il ne faut pas vivre comme un ennemi, toutes les consultations spécialisées, les centres de soins. Donc il faut que les salariés sachent qu'ils peuvent aller demander de l'aide. C'est important qu'on peut faire intervenir des cellules de crise médico-psychologiques, pourquoi pas. Mais que la véritable prévention primaire, c'est d'abord que tout le monde travaille ensemble à un plan d'action sur les violences au travail, sur la souffrance au travail, qu'on se déleste aussi un peu de ces mots pasteurisés comme le stress. Mmh. Ce qui se passe dans le monde du travail correspond à des pathologies précises. Et si on arrive à étayer sa connaissance de la santé mentale et physique au travail, alors on fera une prévention de bien meilleure qualité.
Beaucoup d'ailleurs ce soir, internautes m'écrivent que le stress a bon dos quand il est devenu véritablement un élément de management enseigné à la limite aux jeunes dans les grandes écoles. Je referme la parenthèse.
France Inter, le téléphone sonne, Alain Bédoux.
Jean-Marc Agnou en Alsace, bonsoir. Vous-même, vous nous expliquez, vous venez de le faire au standard, que vous constatez à l'hôpital psychiatrique, si j'ai bien compris, en tant qu'infirmier ou que médecin, les dégâts, parce que vous recevez beaucoup de salariés qui ont craqué, c'est cela ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais souligner deux points, qui sont surtout des remarques, hein. Je n'ai pas de réponse aux questions, hein. À savoir, le premier point, c'est... Donc, je suis infirmier dans un hôpital psychiatrique, hein. L'expression travailler pour gagner sa vie est en train de devenir complètement désuète. On travaille beaucoup maintenant pour survivre et avec parfois la crainte que le travail que l'on a provoque la mort, voire la mort progressive. Hein. Je ne pense pas qu'au passage à l'acte, hein, je pense aussi à l'impact que sur les familles, sur la vie de famille que peuvent avoir les situations difficiles vécues au travail par les salariés. Donc ça c'était une remarque. Et un autre point, c'est que je constate depuis maintenant 26 ans que ces dernières années, il y a une recrudescence de personnes qui arrivent dans des hôpitaux psychiatriques avec des difficultés au travail qui aboutissent à des dépressions, à des passages à l'acte suicidaire. Et ça questionne quand même parce que ça n'est pas forcément l'endroit pour s'occuper de ces personnes. Parce qu'ils sont après confrontés à d'autres personnes qui ont des pathologies beaucoup plus lourdes, ça ne les aide pas forcément à s'en sortir. Et surtout, ce qui me questionne, c'est le fait que, dans l'inconscient collectif, la psychiatrie, c'est quand même le domaine de l'anormalité. Et une personne qui a des difficultés au travail, qui est hospitalisée en psychiatrie, elle passe dans le domaine de l'anormalité. Et ça la met encore en plus en difficulté. Non seulement elle n'arrive pas à s'en sortir à son travail, et de par le fait qu'elle est hospitalisée en psychiatrie, parce qu'il n'y a pour l'instant pas encore d'autres endroits, on lui signifie qu'elle est anormale et que son comportement est anormal. Ah.
Marie Pesé.
Cet intervenant pose deux questions majeures. D'abord, on ne laisse pas son identité dans les vestiaires du lieu de travail quand on rentre chez soi et on emporte les couleuvres qu'on a avalées au risque, malheureusement, d'alimenter la violence familiale. Et d'autre part, c'est vrai qu'on ne peut plus se contenter de la théorie psychiatrique qui viendrait naturaliser les décompensations. Ce ne sont pas, encore une fois, les personnes fragiles qui se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Certaines situations de travail, notamment sur des lieux où le risque, le danger, comme dans les centrales nucléaires ou bien dans les sites classés Céveso, certaines situations de travail mal gérées où les gens sont obligés de travailler à la limite de la conformité aux règles, même si on est supposé être dans la qualité totale, peuvent entraîner des crises identitaires absolument majeures, des bouffées délirantes. Nous recevons aux urgences effectivement des épisodes psychotiques, des gens véritablement délirants, dont la bouffée délirante se résorbe très facilement dès qu'on aborde la question du travail.
Hélène Cardin.
Vous parlez tous les deux dans vos livres beaucoup du manque de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que le manque de reconnaissance et quelles sont ses conséquences?
Docteur Dejour, peut-être.
Oui, la reconnaissance, c'est un mode de gratification, au fond, assez banal, que les gens attendent en échange, en contrepartie, de ce qu'ils apportent comme contribution. Cet échange entre contribution et rétribution, la contribution qu'ils apportent à l'organisation du travail, à la productivité, et aussi aux bénéfices, au profit de l'entreprise. Donc, cette attente de reconnaissance, elle vient du fait que pour obtenir les résultats qu'ils obtiennent, pour être habiles, pour être disons des skilled workers, des travailleurs qui sont qualifiés, c'est pas comme ça une sorte de d'objet qu'on pourrait importer, exporter. Il faut s'engager dans le travail. C'est ce dont on a parlé, c'est l'investissement. Les gens donnent beaucoup d'eux-mêmes, beaucoup plus que ce qu'on croit. Si vous ne pensez pas à votre travail en dehors de votre travail, si vous n'êtes pas habité par le travail, vous n'êtes pas en position de pouvoir acquérir les habiletés qui sont nécessaires pour le faire. Donc beaucoup d'entre nous pensons à notre travail en dehors de notre travail. Non, c'est vrai qu'on donne beaucoup de soi-même et beaucoup plus que ce que suppose la comptabilité qui porte sur le temps de travail. Le temps de travail, moi je ne sais pas ce que c'est, en tout cas je peux vous dire que c'est un mauvais indicateur du travail puisque le travail il va bien au-delà. Alors, les gens attendent en retour une rétribution et cette rétribution qu'ils attendent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas sa dimension matérielle qui compte sur le plan psychologique. C'est la dimension symbolique et elle prend une forme très particulière, une dimension morale, si vous voulez, c'est la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est très importante, alors elle passe par des formes particulières, c'est pas un supplément d'âme comme ça, un peu grossier, c'est pas une tape dans le dos, là, ça passe par des formes de jugement qui sont extrêmement précises et qui portent donc, il y a deux grandes formes de jugement, je peux le dire rapidement comme ça, il y a un jugement qui porte sur l'utilité, c'est-à-dire qui évalue l'utilité sociale, technique ou économique de la contribution. Et puis, il y a un jugement, et il y a un deuxième jugement qui est le jugement de beauté, un jugement qui s'appelle jugement de beauté parce qu'il s'énonce toujours avec des mots qui connotent la beauté, c'est-à-dire c'est la belle ouvrage, le beau travail, le travail de qualité, une démonstration élégante, bon, etc. Vous avez toute une série de termes pour connoter. Et cette beauté, elle connote simplement le fait que le travail qui a été accompli est d'une qualité telle qu'il respecte les règles de l'art. Donc il est en conformité avec les règles de l'art. Et d'une certaine façon, quand on bénéficie de ce jugement sur la beauté, alors ça veut dire qu'on est reconnu comme un travailleur qualifié qui possède les qualifications comme les autres. Donc cette reconnaissance, si vous voulez, elle se traduit du point de vue psychologique par un accroissement de l'identité. Après le travail, et grâce à la reconnaissance, ma souffrance se transforme en accomplissement de soi. Mais ça passe par le jugement des autres. Quand vous êtes privé de cette reconnaissance, alors, du coup, en échange de la contribution et de votre souffrance, vous n'avez que de la souffrance. Alors le résultat, c'est qu'il ne vous reste plus qu'une possibilité pour ne pas tomber malade, parce que sinon vous allez directement dans la maladie, c'est de vous défendre. Donc vous fabriquez des défenses, alors il y a des défenses individuelles, des défenses collectives, et puis au-delà de ces défenses, l'identité, comme l'identité c'est le centre, c'est l'armature de la santé mentale, si vous portez atteinte à l'identité, vous poussez les gens vers la maladie mentale. Voilà, c'est très simple.
Georges, dans les Côtes d'Armor, bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, donc je voulais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit avant de poser ma question. Par rapport à la reconnaissance, c'est tout à fait ce qui se passe dans mon cas, par exemple. On vous brise en vous donnant des tâches qui n'ont aucun rapport avec vos compétences. Donc je suis employé dans un centre de recherche depuis 26 ans à France Télécom. Mmh. Donc je suis en arrêt depuis un an et demi. J'ai eu quelques tentatives de suicide et j'ai fait intervenir le CHSCCT. Mmh. Et puis donc après j'ai été en arrêt, donc là ça, les choses ont commencé à bouger, mais bon, je me suis quand même retrouvé seul en arrêt. Et ma question est, j'avais commencé à parler avec les médecins. Il faut savoir qu'à France Télécom, les médecins sont employés de France Télécom. Donc j'avais vu le médecin de mon centre, qui, quand je lui ai raconté que je subissais des dépressions, que je m'étais reconnu dans des exemples que j'avais vus à la télé, ce médecin a nié. A dit, mais non, c'est pas possible, vous êtes pas comme ça, c'est pas comme ça. Voilà, donc déjà, le médecin qu'on a du travail est un employé de France Télécom, donc a du mal, est un cadre de France Télécom, donc a du mal à écouter un petit peu les gens et à reconnaître certaines choses. Et c'est vrai qu'on se retrouve facilement dans la solitude. Alors ma question, moi, elle était, comme des grandes entreprises comme France Télécom, de par leur méthode de management, provoquent des arrêts de maladie, et je vois autour de moi qu'il y en a beaucoup. Je connais beaucoup de personnes, quelques personnes qui se sont suicidées dans mon centre aussi. Donc je ne suis pas seul, mais quand n'est pas isolé. Et je voulais savoir si la sécurité sociale réagit, parce que il faut savoir qu'au bout de 45 jours, France Télécom ne nous paye plus. Donc, actuellement, moi, depuis presque un an et demi, je suis payé par la Sécurité sociale. Et France Télécom, finalement, c'est un petit peu son avantage. Donc, je les embête plus.
Vous le permettez, c'est difficile à exprimer. On a bien compris. Je regarde la pendule, qu'on ait le temps de vous répondre quand même. Marie Peset.
Alors là, c'est l'expert judiciaire qui va vous parler. Vous avez subi probablement un harcèlement stratégique qui vise à vous faire partir. D'ailleurs, c'est réussi puisque vous êtes en arrêt maladie. Ça ne coûte plus rien à l'entreprise, mais ça coûte très cher à la collectivité. Je pense que la plupart des médecins du travail, justement à cause de l'obligation de résultat quant à la préservation de la santé, vont devoir, sous peine d'être en situation de non-assistance à personne en danger, réagir quand un salarié vient les voir en difficulté. Et puis si le médecin du travail d'une entreprise ne réagit pas, il faut aller voir les acteurs de soins dans les centres hospitaliers.
Un mot, il n'y a pas que les grands groupes, puisqu'on a cité plusieurs fois France Télécom, courriel de Pierre-Jean Haute-Seine, 5 lignes, je vous les lis. Je travaille dans une grosse PME de la région parisienne, un plan social est dans l'air, rien d'original malheureusement, mais l'ambiance est à couper au couteau entre ceux qui pensent être dans la liste et ceux qui croient y échapper. Du coup, certains, moitié par désespoir, croyance protégée ou conjurer le sort, lâchent des phrases du genre « ma femme ne supporterait pas mon licenciement, si j'en suis, je me fous en l'air ». Or, personne ne prend en compte cette réalité. Les syndicats, on les comprend, se battent surtout en ce moment pour la survie de la boîte, mais l'ambiance est délétère. Bon, une PME, le plan social, on voit bien, le couperet qui va tomber, les uns y seront, les amis d'hier, vous parliez de solitude, docteur de jour, c'est ça, c'est un autre exemple, mais dans des petites boîtes.
Oui, mais ça existe évidemment un petit peu partout. D'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a des suicides un peu partout. Ça ne concerne pas que les grandes entreprises, ni que les grands services publics, mais on voit dans le privé, dans les PME, un peu partout. Ce qui est décrit là est effectivement tragique, au sens où c'est pas seulement de perdre un emploi, c'est qu'aujourd'hui perdre un emploi, d'une certaine manière, ça aussi il faut quand même le prendre en considération, c'est relativement plus grave que par le passé. Parce que les solidarités ont été détruites à l'intérieur du monde du travail, mais quand les gens apprennent ce qu'on leur apprend à faire dans les entreprises, c'est-à-dire chacun pour soi, la déloyauté, se méfier les uns des autres, essayer de faire des crocs en jambes aux voisins, etc., ce qu'on apprend dans le monde du travail, qui est le pire, on l'exporte ensuite hors du travail. La société s'est beaucoup transformée, c'est-à-dire que du coup, les solidarités dans le monde social ordinaire, dans la cité, dans la société civile, elle s'est aussi déstructurée. Le résultat, c'est quand vous êtes aujourd'hui au chômage, vous êtes dans une situation qui est relativement plus grave que ça n'était par le passé, où vous pouviez bénéficier quand même aussi de solidarité spontanée de la part des autres. Aujourd'hui, on fuit le chômeur. Bon, et c'est généralisé. Et bon, effectivement, on a encore beaucoup plus peur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la menace du chômage, la menace quand elle est du chômage associé à l'évaluation individualisée des performances, a des effets aussi désastreux.
Marie Peset, un mot avant la dernière question.
Oh, je crois qu'il faut comprendre que le travail est central dans la construction et la déconstruction individuelle, mais aussi dans la construction et la destruction de notre société et du vivre ensemble.
Denise à Lyon, bonsoir Denise.
Bonsoir, donc j'ai une petite question. Lorsque nous avons connaissance d'un collègue qui est dans la grande souffrance, qui devons-nous prévenir en priorité? Les RH, l'assistante sociale, le médecin du travail, les syndicats? Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire autre chose. Je voudrais dire un message à tous mes collègues qui sont dans la souffrance, dans la solitude, qui sachent qu'ils ne sont pas seuls, qui sachent qu'il y a plein de gens qui peuvent les écouter, etc. Et entre autres sur nos sites syndicaux et entre autres ben, la CFE-CGC études qui avait mis en place l'Observatoire du stress. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont toujours quelqu'un qui peut être à leur écoute.
Merci de l'avoir dit, Denise. On n'oublie pas la question. Vous êtes nombreux. Que faire quand véritablement on voit que le collègue, la collègue, ça tourne mal, Marie Peset
Essayez de choisir la personne à qui on a envie de parler, le médecin du travail, un collègue, un délégué syndical, quelqu'un à l'extérieur, le médecin généraliste. En tout cas, en parler et ne pas se sentir coupable de ce qui se passe.
Merci à tous, il sera à 20h dans quelques instants.